Europe 1.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour faire le tour de l'actualité.
Europe 1 midi week-end, midi 30, 13h, Cédric Chasseur.
Qui a attaqué une base militaire dans le centre de l'Irak? Les États-Unis et Israël démentent toute implication. La peur de l'embrasement inquiète la communauté internationale qui appelle à la retenue. Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, sera l'invité d'Europe 1 pour tenter d'y voir plus clair. Deux adolescents de 14 et 15 ans mis en examen et écroués à Grande-Synthe pour avoir tendu un guet-apens à un homme sauvagement tabassé à mort. L'enquête se penche sur les motivations des agresseurs. Ils pourraient s'être trompés de cible, tuant une personne au mauvais endroit, au mauvais moment. L'écart se réduit dans les sondages entre Valérie Ayer et Raphaël Glucksmann, le candidat du PS, qui relance l'espoir chez certains d'un retour du clivage gauche-droite. Est-ce crédible? Nous poserons la question au politologue Jean-Christophe Gallien. La tendance météo, Anthony Kazmarek.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. Encore des averses avec beaucoup de nuages cet après-midi sur un très large quart nord-est, y compris en Île-de-France, mais aussi de la Côte d'Azur à la Corse. Partout ailleurs, en revanche, c'est le soleil qui va s'imposer, avec toujours de la fraîcheur. Nous aurons entre 9 et 22 degrés cet après-midi.
Un bulletin complet à la fin de ce journal.
Europe 1.
Après l'Iran hier, visé par ce qui ressemble à des frappes de drones, c'est au tour d'une base militaire en Irak d'être touchée la nuit dernière. Les États-Unis et Israël demandent toute participation dans un contexte géopolitique explosif dans la région. Bonjour Wilfried de Villers.
Bonjour.
Difficile ce midi de savoir qui est à l'origine de cette dernière attaque.
Oui, vous le disiez Cédric, hein, Israël a démenti du moins officieusement être à l'origine de cette nouvelle frappe dans la région. Un porte-parole de l'armée a assuré à CNN tout à l'heure que les forces de défense n'étaient pas impliquées. Dans le même temps, un communiqué officiel irakien affirme qu'il n'y avait ni d'avions de combat ni de drones présents dans l'espace aérien irakien avant ou pendant ces explosions. Elles ont eu lieu, je le rappelle, dans une base aérienne abritant une ancienne milice pro-Iran et elles ont fait un mort et 8 blessés. Du matériel militaire, des infrastructures et des véhicules ont également été touchés. Le commandant de l'une de ces milices a promis ce matin une riposte contre les responsables de cette attaque.
Alors c'est un incident sécuritaire qui intervient en Irak, Wilfried, dans un contexte déjà très compliqué dans le Moyen-Orient.
Un peu plus de 24 heures après cette attaque attribuée à Israël dans le centre de l'Iran, une semaine aussi après les attaques massives lancées depuis l'Iran vers Israël. Depuis, la communauté internationale multiplie les appels à la désescalade, à l'apaisement au Moyen-Orient. Un regain de tension qui ouvre aussi une nouvelle page dans la diplomatie régionale parce que c'est la première fois qu'Israël et l'Iran mènent des attaques directes sur leur sol, davantage habitués à une guerre de l'ombre qu'à un conflit plus ouvert.
Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Merci pour cet éclairage. Bonjour Sébastien Boussois.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des questions euro-arabes. Une frappe qui touche l'Irak 24 heures après une attaque contre l'Iran, imputée à Israël. Est-ce que c'est le conflit qui est en train de s'étendre à toute la région?
Alors, je ne crois pas qu'on soit dans cette propagation à ce stade-là. En réalité, ce type d'opération est assez, je vais pas dire régulière ou habituelle, mais je pense qu'on est revenu à une sorte de stade à la normale, si tant est quelque chose soit normal au Moyen-Orient. Mais en tout cas, les frappes directes, potentielles ou réelles qu'il y a pu avoir, notamment sur l'Iran récemment, on a, à mon avis, basculé dans un retour à ces formes de guerre délocalisées, ces fameuses guerres par procuration, en visant directement ces fameuses proxys, c'est-à-dire les antennes iraniennes dans un certain nombre de pays. Chacun, c'est un peu un partout la balle au centre, chacun a riposté à l'attaque, et maintenant on est dans quelque chose presque de régulier, si je puis dire, c'est-à-dire aussi bien entre le Liban Sud et Israël que sur d'autres terrains délocalisés. Et probablement que ce qui s'est passé en Irak en fait partie, puisque les milices pro-chiites iraniennes en Irak sont extrêmement importantes aujourd'hui et tiennent quelque part la clé du paysage politique irakien en déconfiture depuis des années.
Sébastien Boussois, on sent tout de même dans cette réponse d'Israël qu'il y a une sorte de ciblage. En tout cas, on ne veut pas non plus lancer de grandes attaques. C'est quelque chose de très ciblé dans les réponses pour l'instant.
Oui, encore heureux. Je dirais que ça fait pourtant des années, très paradoxalement, que l'État hébreu pousse les États-Unis à intervenir et à frapper directement l'Iran. On se souvient de l'époque où Netanyahou faisait pression sur Barack Obama, qui avait toujours refusé. C'est effectivement, l'Iran reste l'ennemi numéro un pour l'État d'Israël. Pour autant, je crois qu'il y a une forme de modération malgré le chaos ambiant dans la région, en ciblant et en montrant clairement que l'on sait ce qu'il se passe. Ça a été le cas effectivement avec cette frappe attribuée à Israël il y a 2 jours visant, en tout cas de manière très proche, la centrale nucléaire à Natanz du côté d'Ispahan, qui laisse supposer que les services israéliens et l'armée voulaient faire passer ce message. On sait ce qui se passe de votre côté, côté iranien, et c'est la même chose concernant les ministres pro-chiites du côté irakien. Israël est très paradoxalement très informé et veut le montrer, oui. Et puis parfois fait défaut en termes de sécurité, comme c'était le cas notamment le 7 octobre.
Et puisque vous parliez de l'Iran, Sébastien Boussois, pour terminer, comment vous percevez la réponse justement à l'attaque d'hier qui a touché directement le pays, ou à celle de l'Irak aujourd'hui? On sent aussi qu'on essaye du côté iranien de dédramatiser un petit peu les choses.
Oui, je ne sais pas s'il y a des échanges via les États-Unis ou via d'autres acteurs, puisque tout le monde s'excite au niveau de la communauté internationale pour appeler à une désescalade. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas forcément porté ses fruits, pas plus d'ailleurs que le cessez-le-feu côté israélien et Hamas. Mais probablement qu'on pousse le bouchon jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, c'est souvent ce que risque de perdre dans cette balance entre coûts et avantages, ce que risque de perdre aussi bien l'Iran qu'Israël. Israël a beaucoup de fronts à mener. Un front supplémentaire risque d'être quand même extrêmement compliqué. Et du côté de l'Iran, ce régime qui résiste, contrairement à ce que certains continuent à penser et à diffuser, comme quoi le régime pourrait être sur le point de s'effondrer tous les 15 jours. On voit bien aujourd'hui que le régime résiste, mais il contient également la répression et les oppositions et les manifestations. Ouais. Mais il a démontré, par ce succès de riposte contre Israël, qu'il pouvait le faire. Et je crois que les deux acteurs sont dans cette situation. Nous pouvons frapper beaucoup plus que ce que nous faisons. Nous faisons passer un message, et s'il fallait aller plus loin, on le ferait. Et puis il y a comme tout d'un coup une forme d'humanité, ou en tout cas de calcul sur le fait que si l'on bascule dans autre chose, beaucoup peuvent perdre, comme c'est le cas du Hezbollah s'il s'était engagé dans la guerre contre Israël. Tout est confortable, si je puis dire, pour lui en l'état. Mais s'il bascule dans une guerre totale, il a en réalité tout à perdre, à commencer par son pouvoir total, presque sur le Liban.
Merci Sébastien Boussois. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et spécialiste des questions euro-arabes. Toujours à l'étranger, l'Ukraine attend désespérément de l'aide militaire et financière pour se défendre face à la Russie. Kiev qui devrait suivre avec intérêt le vote ce samedi de la Chambre des représentants, vote sur une série de mesures d'accompagnement d'Israël et de l'Ukraine par les États-Unis. Joe Biden a promis de l'approuver immédiatement. Ça fait plusieurs mois que les républicains majoritaires à la Chambre bloquent cette aide, mais son président estime désormais qu'il est temps de voter, même si une partie de sa majorité y est opposée. Aviva Fried.
Oui, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, doit user de stratagèmes pour faire voter ses aides. Au lieu d'une seule loi qui engloberait tout, il a décidé d'en faire voter 3. L'une prévoit 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, notamment pour acheter du matériel militaire aux Américains. Mike Johnson ne veut plus tergiverser.
Franchement, je préfère envoyer des munitions en Ukraine que des Américains. Mon fils va commencer l'académie navale cet automne. C'est l'épreuve du feu pour moi, comme pour beaucoup d'autres familles américaines. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague.
Une autre loi accorde plus de 26 milliards de dollars à l'aide militaire pour Israël, ainsi qu'à l'aide humanitaire pour Gaza. Enfin, la troisième loi octroie 8 milliards de dollars à Taïwan. Un bricolage, mais qui permet de s'assurer le soutien de différentes factions. Les partisans d'Israël ne sont pas forcément les mêmes qui soutiennent l'aide à l'Ukraine. Pour faire passer la pilule, Mike Johnson a même prévu une quatrième loi visant à interdire TikTok. Pourtant, des parlementaires de sa majorité, fidèles de Donald Trump, ont annoncé qu'ils allaient essayer de le faire tomber comme son prédécesseur, ce qui pourrait plonger la Chambre des représentants encore plus dans le chaos.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, où Donald Trump tente tant bien que mal de poursuivre sa campagne pour l'élection présidentielle. Il est en Caroline du Nord ce samedi. Premier rassemblement pour le candidat républicain depuis le début de son procès à New York. Hier, le jury de 12 membres et 6 suppléants a enfin pu être constitué. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est le geste d'un homme qui s'est immolé par le feu devant le palais de justice de New York. L'individu âgé de 36 ans et originaire de Floride est mort ce matin des suites de ses blessures. Une pause, Europe 1 Midi Week-end revient. Pourquoi Philippe Kopmann a été assassiné à Grande-Synthe mardi? C'est la question que se pose la police. À tout de suite.
Europe 1 Midi Week-end, midi 30, 13h, Cédric Chasseur.
Et midi 42 sur Europe 1, l'émotion est toujours très vive à Grande-Synthe. Près de 2000 personnes ont participé hier à une marche blanche en hommage à Philippe Kopmann, assassiné mardi. Deux adolescents de 14 et 15 ans ont été mis en examen et écroués dans la soirée. Ils ont reconnu avoir tendu un guet-apens à leur victime par le biais d'une fausse petite annonce sur un site de rencontre. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent. Lionel Gougelot, il se pourrait d'ailleurs que la victime, sauvagement tabassée à mort, n'était pas celle que les agresseurs visaient réellement.
Par le biais d'un rendez-vous fixé sur un site de rencontre, les deux garçons, se faisant passer pour une jeune fille mineure, projetaient d'organiser une sorte d'expédition punitive contre un adulte soupçonné de vouloir abuser d'une adolescente. Avant le monstrueux passage à tabac, ils affirment avoir vérifié cette nuit-là que Philippe, leur victime, était bien celui qui avait répondu à la fausse annonce en l'appelant sur son portable. Alors, rien ne le confirme pour l'instant, d'autant que l'entourage de l'éducateur assure avoir reçu le témoignage d'un homme qui affirme être celui qui avait fixé le rendez-vous, Amine, un proche de la famille.
La personne nous a contactés, elle nous a envoyé un message. Elle va faire une déposition à la police. C'est une personne qui avait rendez-vous avec une fille au même lieu, à la même heure. Et Philippe, il allait juste chez son ami. Il l'a croisé par hasard. Il était là au mauvais moment et c'est tout.
Un témoignage qui là aussi doit faire l'objet de vérifications, notamment des examens de la téléphonie, mais un point essentiel pour les proches de la victime qui refusent l'idée que Philippe aurait pu se laisser aller à des rendez-vous avec une mineure. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Deux points, c'est tout ce qui sépare désormais Valérie Ayer et Raphaël Glucksmann. La dernière enquête réalisée par Harris Interactive à un mois et demi des élections européennes donne 16% d'intention de vote pour la candidate macroniste 14% pour celui des socialistes. Deux points d'écart, c'est la marge d'erreur des sondeurs. Alexandre Chauveau, une double inquiétude gagne les rangs de la majorité présidentielle, celle de finir troisième de cette élection, mais aussi celle de voir ressurgir le bon vieux clivage gauche-droite en politique.
En Macronie, le constat est unanime. La candidature de Valérie Ayer ne prend pas. Les plus optimistes se rassurent. Les Français ne sont pas encore dans la campagne, confie un ministre. D'autres, plus résignés, évoquent avec fatalité l'usure d'un parti au pouvoir depuis 7 ans. Beaucoup comptent, comme il y a 5 ans, sur l'implication du chef de l'État pour mobiliser ses électeurs. Reste que l'hypothèse d'un croisement des courbes avec Raphaël Glucksmann prend de l'ampleur et pourrait amorcer la fin du macronisme. Le retour d'une gauche pro-européenne opposée à la loi immigration ou à la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron et débarrassée des outrances de la France insoumise ressusciterait en effet le clivage gauche-droite. Raphaël Glucksmann y travaille, tout comme François-Xavier Bellamy à droite. Le « en même temps » a été une tromperie, tacle ainsi le candidat des Républicains, qui voit dans la montée de son adversaire à gauche une opportunité de déjouer le match Macron-Le Pen.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Gallien.
Bonjour Cédric.
Vous êtes politologue, communicant politique. Le retour du clivage gauche-droite, vous y croyez ?
Écoutez, on l'a vu un peu s'amorcer dès 2022, au lendemain de l'élection présidentielle, qui était un peu particulière, qui avait été un peu confisquée, on va dire, avec les élections législatives, qui, elles, ont finalement traduit les graines de cette réévolution vers quelque chose qui séparait la politique ou l'espace politique en France entre la gauche et la droite, ou les gauches et les droites plus exactement, avec un centre qui était encore majoritaire, mais on l'a vu à l'Assemblée nationale, pas suffisamment pour pouvoir gouverner. Et je pense que c'était une tendance qui aujourd'hui va se révéler très concrètement par ce premier grand moment politique depuis, celui des européennes, qui en plus avec un mode de scrutin très particulier, puisque c'est la proportionnelle intégrale sur toute la France en un tour, c'est-à-dire que là on a une photographie parfaite des rapports de force et c'est ce qui mobilise tout le monde aujourd'hui.
Ces sondages et notamment ce score que l'on prédit pour l'instant à Valérie Ayer, c'est l'échec aussi de la stratégie de Renaissance qui a choisi une candidate méconnue du grand public ?
Alors c'est possiblement ça, mais je crois que ça va plus loin et c'est quelque chose qui cote encore une fois, pas seulement Valérie Ayer, parce que finalement c'est même pas un produit politique pour ce qui la concerne, donc c'est difficile de lui taper dessus, je dirais même quand on vient de son propre bord. On sait bien que la liste Renaissance est la liste d'Emmanuel Macron, donc la marque politique d'ailleurs qu'on attend peut-être davantage dans la campagne, c'est celle du président de la République, et c'est finalement la cotation aujourd'hui de la valeur du président de la République qui est dans ce score assez faible, et c'était l'angoisse profonde réellement autour de Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, et c'est aussi Gabriel Attal qui est évidemment impliqué dans cette affaire, c'est de voir s'effondrer la liste aux européennes, parce que même si, on va dire, c'est une élection intermédiaire, même si c'est une élection particulière, je vous le redis, ça cote à un moment donné les rapports de force politique de manière très forte. Donc ça annonce quoi ? Ça annonce pas simplement 2024, ça annonce 2027. Et je dirais même que pour Emmanuel Macron, c'est une faiblesse qui va se traduire ensuite à l'intérieur de l'édifice européen, parce que si sa liste à lui s'affaiblit, ça veut dire que lui aussi, sa position à l'intérieur de l'édifice européen va s'affaiblir.
Et Jean-Christophe Gallien, si Raphaël Glucksmann, puisqu'on parlait de lui aussi, profite de l'affaiblissement de la partie centrale, finalement, de l'échiquier, il profite aussi de ce qui se passe à sa gauche, avec la liste La France Insoumise, qui n'est créditée que de 7 à 8% d'intention de vote. On a encore entendu Jean-Luc Mélenchon aller dans l'outrance cette semaine. Rima Hassan, qui est présente sur la liste, est convoquée par la police pour apologie de terrorisme. Est-ce que finalement la stratégie de l'outrance de l'extrême gauche est en train de se retourner contre elle ?
On voit bien qu'en tout cas, le rapport de force est inversé, parce que vous avez raison de le dire, c'est gauche-droite, mais c'est à l'intérieur des droites et à l'intérieur des gauches que ça se joue, et je dirais même plus, peut-être après, à l'intérieur même des partis politiques. C'est un vrai sujet. Et donc, là, on voit bien que Raphaël Glucksmann, alors c'est le moment politique de Raphaël Glucksmann, on le sent bien, c'est le produit qui est en train de se créer. On est loin d'il y a 5 ans où c'était très hésitant, très difficile. Là, on commence à retrouver, c'est pas encore le Parti Socialiste en élection, mais c'est pas très loin. Et donc, finalement, ça traduit aussi, par rapport à LFI qui était la force dominante, une baisse, une chute. On voit que M. Mélenchon essaie par tous les moyens d'essayer de victimiser le parti, de dire finalement, voyez, regardez, on nous met au banc de la société politique, on nous interdit de parler, la démocratie est concernée. Donc on va encore davantage, peut-être pas dans l'outrance, mais en tout cas dans la radicalisation des thématiques, parce qu'on cherche, une bulle d'oxygène politique pour essayer de se sauver, parce que là aussi se joue ce qui se passera à l'intérieur des gauches pour 2027. Et la plateforme qu'ils veulent, c'est une plateforme unique pour certains, oui. Et donc plus le rapport de force va en faveur du Parti Socialiste, plus effectivement le Parti Socialiste sera en force, et peut-être avec M. Glucksmann d'ailleurs, puisqu'il s'agit de ça.
Merci Jean-Christophe Gallien, je rappelle que vous êtes politologue et communicant politique, merci d'avoir été dans Europe 1 Midi Week-end. Vous ne bougez pas, dans un instant, la sécurité des Jeux Olympiques, est-ce que tout sera prêt pour cet été ? Élément de réponse après la pause.
Europe 1 Midi Week-end, midi 30, 13h, Cédric Chasseur.
Il est 12h52, c'est un défi hors norme, assurer la sécurité des Jeux Olympiques alors que la France est en urgence attentat. Premier échauffement le 8 mai à Marseille avec l'arrivée de la flamme qui traversera ensuite le pays pendant près de 3 mois avant la cérémonie d'ouverture sur la scène le 26 juillet. Des athlètes et des officiels de tout pays s'inquiètent du risque d'attentat. Les autorités françaises se veulent rassurantes. Bonjour Antoine Bienveau.
Bonjour Cédric.
L'État veut montrer que tout est fait pour assurer la sécurité aussi bien des sportifs, des touristes que des Français.
Oui, et pour rassurer tout le monde, le gouvernement rappelle d'abord que des périmètres sécurisés seront mis en place autour des enceintes sportives. Un filtrage sera organisé et certaines personnes jugées dangereuses pourront en être refusées. Les autorités sont d'ailleurs déjà en train d'identifier ces individus présentant une potentielle menace. Comme l'explique Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, elle était votre invitée ce matin, Cédric, dans Europe 1 Matin Week-end.
On estime qu'on va réaliser jusqu'à 1 million d'enquêtes de sécurité. C'est en cours. On a actuellement criblé ainsi à peu près 200 000 personnes. Certains n'ont pas l'autorisation de rentrer dans les périmètres parce qu'on estime qu'ils représentent un danger. Il y a quelques fichiers S par exemple. Ce criblage, pour nous, est une des pierres solides pour constituer l'édifice de la sécurité.
Autre enjeu important à moins de 100 jours des Jeux, les effectifs de sécurité privée. Paris 2024 estime avoir besoin de 17 000 agents par jour et assure avoir déjà recruté 97% de ses effectifs. Mais selon Pierre Brageux, président de la Fédération française de la sécurité privée, 8 000 postes sont encore vacants.
Il est extrêmement important qu'on ait une dernière campagne de communication pour attirer des gens. Je pense notamment aux étudiants. C'est une population qui est extrêmement intéressante et intéressée. 3 semaines de formation prise en charge. Ça leur permet de participer à la sécurité des Jeux Olympiques, d'être au cœur d'un événement qu'ils ne reverront probablement jamais dans leur vie.
Des formations gratuites sont effectivement toujours en ligne sur la plateforme France Travail pour se former au métier de la sécurité en 3 semaines et participer aux Jeux.
Antoine Bienvaux, les vacances se terminent pour la zone C, elles démarrent pour la zone B et elles se poursuivent pour la zone A. Bref, il y aura tout le monde sur les routes ce week-end. C'est orange aussi bien dans le sens des départs que des retours en Rhône-Alpes-Auvergne. Orange aussi pour les retours seulement en Ile-de-France. On surveillera notamment la situation sur l'A13, autoroute fermée entre Paris et Vaucresson. La faute, Martin Lange, à un problème d'infrastructure sur la chaussée.
Oui, la faute à une fissure lézardant toute la chaussée de l'autoroute. Une fissure importante, jusqu'à 80 cm de profondeur par endroit. Elle a été découverte lors de travaux nocturnes et serait due à un mouvement de terrain, selon la préfecture des Hauts-de-Seine. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore la cause de ce mouvement de terrain. Éric Berdoati, le maire de Saint-Cloud.
On ne peut pas prendre de risque, hein, vu le nombre de véhicules qui passent. C'est des voiries à 100, 110 000 véhicules jour, hein, quand même. À l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas très bien quelle est la cause réelle de ce dommage sur la voirie. Et c'est une fois qu'on a bien identifié la cause qu'on peut essayer d'y remédier. Mais tant que vous ne savez pas vraiment, vous n'engagez pas des travaux.
L'autoroute A13 est donc fermée dans les deux sens tout le week-end, tout comme le domaine national de Saint-Cloud, voisin de l'autoroute, son administrateur Brice Mathieu.
Traditionnellement, on est une voie de délestage de l'A13 quand il y a des bouchons. On ferme le domaine à la voiture, quelle qu'elle soit, jusqu'à lundi inclus. Ça nous a semblé la meilleure décision vu les mouvements attendus ce week-end.
Les autorités conseillent donc d'éviter l'ensemble du secteur, surtout pour les retours de vacances, et de privilégier l'A14 au nord et la N118 au sud. La réouverture complète de l'A13 n'est pas envisagée avant le courant de la semaine prochaine.
Martin Lange, près de 40 000 spectateurs. Lyon s'apprête à battre un nouveau record d'affluence ce soir pour du football féminin. L'OL reçoit le PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi 19h. Un rendez-vous, Christopher Filhoc, très attendu par les supporters. Et une question aussi de suprématie pour les deux clubs qui n'ont jamais été aussi proches.
Oui, Cédric, duel fratricide, un 100% français entre les deux équipes phares du championnat de France. Lyon premier et le PSG deuxième. Pour la 7e fois, les meilleurs ennemis vont s'affronter sur la scène européenne. Alors au regard des dernières oppositions entre les deux formations et l'expérience, Lyon part avec un avantage sur son rival francilien et ça, le coach parisien Jocelyn Prêcheur en est bien conscient.
Ils ont un peu plus d'expérience que nous sur ce type de rendez-vous. Ils ont aussi un effectif plus étoffé que le nôtre. Maintenant, on a aussi nos qualités et c'est ça qu'il va falloir exprimer.
Invaincus depuis 24 matchs, toutes compétitions confondues, les joueuses parisiennes tenteront de capitaliser sur leur dynamique pour contrecarrer les plans rhodaniens. Le PSG qui pourra compter sur les retours de la défenseuse Elissa de Almeida et Liquet Martens. Au contraire, de Lyon, qui devra faire sans Eugénie Le Sommer et certainement sans Delphine Cascarino et Ada Egerberg. Sortie en quart de finale par Chelsea la saison dernière, les Lyonnaises sont en quête de revanche et espèrent récupérer une couronne abandonnée au FC Barcelone. Les deux équipes ont donc des arguments à faire valoir dans ce choc au sommet qui s'annonce palpitant entre les deux mastodontes du football français féminin.
Merci Christopher Filhoc. La météo, Anthony Kazmarek, pour avoir du soleil cet après-midi, cap à l'ouest ou au sud?
Oui, un beau soleil certainement, d'abord sur une bonne moitié ouest du pays, de la Bretagne au Cotentin en redescendant sur la côte atlantique jusqu'aux Pyrénées, peut-être quelques passages nuageux sur le Pays Basque et puis du soleil aussi près de la Méditerranée. Oui, mais avec du vent, notamment le Mistral qui soufflera jusqu'à 100 km/h en rafale dans la basse vallée du Rhône. Méditerranée donc au soleil, sauf sur les Alpes-Maritimes et la Corse où là il y aura peut-être un petit risque d'orage en fin d'après-midi. Et puis dans toutes les autres régions, c'est-à-dire sur un bon quart nord-est, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, du Grand Est jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, des nuages, quelques éclaircies et des averses. Averses qui pourraient prendre un caractère orageux en Alsace et des averses de neige sur les reliefs de l'Est à partir de 900 mètres. Les températures, elles restent fraîches cet après-midi. 9 degrés seulement à Saint-Etienne, 11 à Lille et à Strasbourg, 12 degrés à Lyon et à Paris, 14 à Limoges, 16 à Marseille, 18 à Bordeaux et Toulouse et quand même 22 pour Perpignan.
Merci Anthony Kazmarek. Dans un instant, c'est Isabelle Morizet que vous retrouvez. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Elle reçoit aujourd'hui Véronica Loubry. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.